Société avec Nick Payne.
Bonjour et bienvenue. Merci d'être à l'écoute. Aujourd'hui à l'émission, les territoires autochtones non cédés. Vous avez sûrement entendu des responsables politiques, des artistes, des professeurs, des conférenciers à diverses occasions faire ce préambule, cette déclaration de principe et dire « Avant toute chose, j'aimerais dire que je reconnais ou nous reconnaissons que nous sommes ici en territoire non cédé par tel ou tel peuple autochtone. » Denis Coderre à Montréal parlait de Montréal comme étant un territoire Mohawk. La mairesse Valérie Plante revient elle aussi sur cette notion de territoire non cédé. On en jase en deuxième moitié d'émission avec Éric Bédard, l'historien que vous connaissez bien. On va essayer d'approfondir un peu là-dessus, de comprendre d'où ça nous vient, ça, cette nouvelle habitude de parler des territoires non cédés. Mais on va se demander si qu'est-ce que c'est, ça, un territoire non cédé? Est-ce que ça existe? Si oui, comment cela se fait-il? Et pourquoi on en parle comme ça? Et si on en parle, est-ce que les gestes, ou plutôt les paroles, seront suivis de gestes. Mais d'abord, jasons avec les deux Fred de l'actualité. Vous le savez, dans cette émission, nous avons un concept. On invite des gens qui ont des noms qui se ressemblent. Alors, vous avez par exemple les deux Fred donc, de l'actualité. L'un qui est passé tout près d'être une vedette rock, Frédéric Lapointe, fondateur de la Ligue d'action civique. Bonjour, Frédéric Lapointe.
Bonjour.
Et puis, bien sûr, Frédéric Bérard. Et comme vous le savez, un peu plus tard, nous aurons Éric Bédard. Lui est à un Fred d'être un Frédéric et à un R d'être un Bérard. Alors, voyez, une chatte, il perdrait ses petits, sans faire de spécisme, évidemment, ou de sexisme. Là, je vois pas pourquoi un chat ne pourrait pas, lui, retrouver, perdre moins ses petits. Enfin, bref, bonjour, Frédéric Bérard.
Salut pour la petite anecdote. Bédard, qui est un bon ami, je lui dis souvent que j'en ai tellement marre de me faire appeler Bédard. Il dit, tu vois, il dit, moi, je me suis jamais fait appeler Bérard.
Ah bon? je vais essayer de maintenir la tradition. Vous êtes bien sûr avocat, juriste, chroniqueur au journal Métro. Avant qu'on entre dans le sujet de la politique, continuons un instant avec vous, Frédéric Bérard, sur la question des territoires non cédés. Tout ça, parce que vous êtes constitutionnaliste, touche à la question des traités, hein? C'est ça? Ça, les territoires du Canada qui ne font pas l'objet d'un traité ou d'un autre sont ceux qui sont susceptibles d'être désignés comme étant non cédés. C'est bien ça. Et quels sont les traités, parce qu'ils ont été constitutionnalisés, ces traités-là, en partie, en tout cas, si je comprends bien. De quoi on parle quand on parle de traités, là?
C'est un processus qui est très complexe, hein, parce qu'on sait que, bon, après la Nouvelle-France, après ça, la conquête, la proclamation royale, l'acte de Québec, l'acte de 1791, l'acte d'union et ainsi de suite. Donc, il y a des traités certains se constitutionnalisent au fil des nouvelles, des nouvelles moutures, mm-hmm. jusqu'en 1867 et 1982. D'autres, non. Et c'est là que ça devient compliqué, puis je ne vous contais pas d'histoire, Nick, je ne suis pas suffisamment, je ne m'y connais pas, puis c'est pour ça que je vais écouter Bédard avec intérêt là-dessus, comme j'en écoute d'autres ici et là.
Mais alors, en un mot, là, les traités en question, ouais. ça dit quoi, ça? Ça sert à quoi? Ça fait état du fait que telle ou telle nation a cédé, a donné vendu le territoire à la couronne, c'est ça?
Oui, mais c'est pour ça. C'est juste la résultante d'une entente essentiellement politique. Mais ce qui est compliqué, c'est de savoir si ces traités-là puissent trouver une espèce de pérennité à travers la nouvelle mouture constitutionnelle. Vous rappelez peut-être, il y a eu plusieurs décisions là-dessus dans l'Ouest canadien par rapport aux francophones, par rapport aux métis, par exemple. Mm-hmm. Est-ce que l'Alberta est constitutionnellement bilingue et ainsi de suite? L'affaire Caron, ben là, on se posait la question, OK, mais l'entente qu'il y avait eu avec tel groupe, est-ce que cette entente-là, le traité, si vous aimez mieux, a été constitutionnalisé par la suite en 1867, oui, non, ainsi de suite. Et là, c'était compliqué parce que c'est une entente avec la majesté britannique. Comment ça s'est fait dans... Bon, vous voyez, genre... Donc, tout ça pour dire que, à mon avis, dans ce cas précis, c'est beaucoup plus un job d'historien, sociologue peut-être, mais surtout d'historien, comme la Cour suprême elle-même le reconnaît implicitement lorsqu'elle discute de ces éléments-là. Est-ce que c'était la volonté des constituants de perpétuer le traité en question ou non? Et de là, les éclairages pertinents de Bédard et compagnie là, pour savoir qu'est-ce qu'il y en est réellement. Parce que même moi, pour être honnête, sur la question de la ville de Montréal, bien franchement, j'en sais rien. Je sais qu'il y a beaucoup d'instrumentalisation politique là-dessus. Mais est-ce que c'est fondé ou non sur des faits, ça, je l'ignore.
Bon, après, oui, parce que vous avez les pauvres Wet'suwet'en qui ont été balayés de l'actualité par la COVID, qu'on a complètement oublié, qui, eux, ne reconnaissaient plus certains traités parce que les leaders héréditaires considéraient qu'ils n'étaient pas valides parce qu'ils avaient été... Enfin, vous voyez, effectivement, c'est pas clair. Alors, merci de nous avoir confirmé que c'était pas clair, Frédéric Béra.
Malheureusement, c'est le mieux que je puisse faire.
Parfait. Frédéric Lapointe, est-ce que vos plans de voyage dans le sud sont contrecarrés? Êtes-vous satisfait? Que pensez-vous des déclarations de Justin Trudeau qui parle, je l'ai remarqué, hein, de quarantaine quand vous n'avez pas encore reçu le résultat de votre test, mais ça devient une quarantaine quand vous êtes déclaré positif. Alors la quarantaine, c'est comme une version légère, quoi, de la quarantaine, mais sans farce, est-ce que c'est cohérent tout ça?
Ce qui est certain, c'est qu'en sortant de l'actualité, la question du scandale...
Ah ben oui, vous disiez qu'on en parlait trop, là. Vous avez été servi.
Oui, c'est ça. Oui. C'est ça, exactement. J'ai été servi. Et finalement, ben, le gouvernement s'est rendu à la pression, a probablement eu besoin de préparer les choses, de donner des préavis pour limiter les inconvénients à la fois pour les entreprises de transport aérien et à la fois pour les passagers là, qui avaient pris des billets. Mais oui, on peut mettre cette question-là au repos et discuter de ce qui est probablement beaucoup plus important, à savoir le calendrier de vaccination et le calendrier de déconfinement ou de non-déconfinement. J'apprends entre les branches, par exemple, que peut-être que les universités ne reviendront pas à la normale en septembre. Donc, je pense qu'il y a des questions beaucoup plus importantes que de savoir si on est frustré contre notre voisin là, parce qu'il n'y a plus l'avion.
Frédéric Bérard, est-ce que ça vous semble... est-ce que c'est pas un peu lourd tout ça? Alors, le séjour qui coûte plus de 2 000 $ dans un hôtel après avoir passé un test, l'impossibilité d'aller au Mexique ou dans les Caraïbes. Le Mexique, d'ailleurs, qui se plaint hein, ce matin, qui dit qu'il espère que le Canada reviendra bientôt sur cette décision par crainte qu'elle provoque une crise économique majeure là-bas. Mais... est-ce qu'on ne crée pas une sorte de droit du voyage à deux vitesses ici? Ceux qui sont très riches pourront toujours aller prendre un vol sur Mexico pour ensuite se rendre au bord de la mer là où ils le veulent. Par ailleurs, on ne parle pas, je ne sais pas moi, du Costa Rica. qu'est-ce qui se passe au juste? Trouvez-vous ça cohérent tout ça?
Non, évidemment pas. Mais est-ce qu'il peut y avoir une cohérence parfaite? Là, on est rendu, c'est un monde surréaliste, là. Quelle époque, comme vous le disiez vous-même tout à l'heure dans nos échanges préalables, on est rendu à discuter est-ce qu'il existe un droit de voyage à deux vitesses, chose qu'on n'aurait jamais, qui n'aurait jamais fleuré notre esprit.
Non, mais vous savez comme moi que certains vont le dire, là. C'est pour ça que je vous pose la question.
Non, je comprends, mais simplement pour dire que la COVID a poussé l'ensemble des gouvernements mondiaux, en fait, les a forcés à faire des choix qui sont absolument surréalistes en quelque sorte, avec, on s'entend, un degré d'approximation énormément élevé, ça fait aucun doute. Moi, personnellement, je suis content que Trudeau ait enfin pris la décision qui s'imposait, c'est-à-dire là, ça suffit, là, les folies, là, vous irez dans votre tout inclus l'année prochaine, vous n'êtes pas des enfants, là. Maintenant, est-ce que dans les faits, il n'y a pas une espèce de disparité? C'est possible, mais bien franchement, de toutes les disparités qui existent dans le monde et particulièrement au Québec, là, celle sur le droit de voyager dans un tout inclus, là, si vous vouliez savoir à quel point je m'en tape, je ne peux vous dire davantage.
Oui, non, mais par exemple, on peut encore aller en Floride si on est un snowbird qui a son condo là-bas et qui, je sais pas moi, qui vote libéral peut-être.
Sûrement que ça doit être prévu dans la grille d'évaluation.
Je sais pas. Je fais un peu d'humour. Mais bon, donc, bref, vous pensez tout de même que ça va, c'est justifié, ça va avoir une efficacité, même si, évidemment, il y a toutes sortes d'angles morts et de problèmes de cohérence qui surviendront, comme d'habitude, parce qu'on n'a pas vraiment le choix. On est dans une situation inédite. C'est ça que vous dites.
Oui, puis surtout que là, soyons clairs, les vaccins s'en viennent, on est en approche le 3% de vaccination au Québec, c'est rien, je sais bien, mais on est vraiment clairement, à moins que le nouveau variant là, vienne bousiller, là, ce qui est malheureusement pas impossible, mais mis à part ça, on est dans les derniers milles. Là. C'est pratiquement terminé. Là. Dans quelques mois, on va enfin pouvoir passer à d'autres choses. Donc, franchement, là, la crise de d'enfants gâtés, de je veux avoir mon Dikiro banane proche de la piscine en fer à Cancun. Sérieusement, là, de toutes les récriminations potentielles qu'il peut y avoir aujourd'hui, celle-là, à mon sens, c'est la dernière. Si vous voulez faire un recours devant les tribunaux, amusez-vous, vous allez vous faire péter la gueule en mille morceaux. Et puis pour le reste, là, est-ce qu'on peut parler d'autres choses un petit peu plus?
Reste, Frédéric Lapointe, que ça a paru long, cette saga. On a eu l'impression que Justin Trudeau entretenait son image de leader indécis, faible, ou en tout cas qui a de la difficulté à poser des gestes forts lorsque le temps presse. Est-ce que vous pensez que ça a été le cas ou c'était vraiment très compliqué, cette question-là? Est-ce que, par exemple, comme certains le suggèrent, le problème du secteur de l'aviation, là, qui n'est toujours pas aidé au Canada, contrairement, en tout cas pas du tout à la même hauteur qu'ailleurs dans les grands pays occidentaux, est-ce que ça a pu être une donnée dans la façon lancinante dont tout ceci s'est passé?
Oui, certainement. D'ailleurs, au bout de quelques semaines, le premier ministre lui-même, la ministre des Finances, Chrystia Freeland, évoquait le fait que les avions ne transportent pas que des passagers et que le matériel transporté par ces avions, qui se déplacent parce qu'ils sont rentables, pourrait venir à manquer au Canada.
Ça pourrait même être des vaccins. Hein?
Mm-hmm. Ben, ça pourrait être des vaccins, c'est de la nourriture, c'est des produits divers. Et donc, on sent que, oui, certains premiers ministres font des pressions, sont vus par le public, parce que ce sont des conférences de presse quotidiennes, mais que l'industrie de l'aviation elle-même y est allée de ces arguments massus, du type, ben, si vous voulez nous fermer, on va fermer, puis vous allez devoir vous débrouiller avec le transport des marchandises.
Oui. Alors, est-ce que le gouvernement Trudeau n'a pas péché n'a pas fait les choses à l'envers? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu d'abord aider cette industrie pour ensuite avoir les coups des franches et prendre des décisions plus rapides dans le dossier des voyages?
Ben, en supposant que le gouvernement fédéral était lui-même convaincu que la question de la circulation des touristes était centrale dans la lutte à la pandémie. J'ai entendu le gouvernement fédéral inviter les gens à ne pas voyager, mais je n'ai pas entendu le gouvernement fédéral démontrer être convaincu que ces déplacements étaient au cœur de l'épidémie au Canada.
Il y a eu, je reste avec vous un instant, Frédéric Lapointe, parce qu'on connaît votre passé péquiste, mais bon, c'est un parti parmi d'autres, hein, comme on le dit à chaque émission, vous impliquez un peu partout, mais vous êtes en tout cas souverainiste. On a entendu un journaliste poser une question à François Legault dans son dernier point de presse, suite au fait que M. Legault, ces jours-ci, se plaint beaucoup de son incapacité à prendre certaines décisions qui relèvent essentiellement du fédéral. Il a dû marquer le fait que Québec ne pouvait pas décider sur la question justement là des voyages et il y avait autre chose aussi là d'autres dossiers qui ne me viennent pas à l'esprit pour l'instant. Et le journaliste a demandé à M. Legault, est-ce que ça ne vous remet pas devant est-ce que ça ne réveille pas chez vous vos anciennes convictions souverainistes? Et M. Legault, il est allé d'une réponse assez candide, assez étonnante pour certains, en tout cas en disant, comme il n'y a pas de référendum gagnant à l'horizon, je pense que mon gouvernement autonomiste est encore la meilleure solution. On avait l'impression que pour lui, si un référendum gagné, c'est la victoire du oui, quelque part, il est encore souverainiste. L'est-il toujours, d'après vous?
Oui, c'est très probable. Même si durant la campagne électorale, alors qu'il se bat pour arracher des votes aux libéraux, il se promène dans l'ouest de l'île de Montréal en disant en anglais qu'il n'organisera jamais de référendum, on sait très bien que les convictions de l'homme ne sont pas différentes. Les convictions d'une partie de son caucus ne sont pas différentes. Et je vous dirais, les convictions de la moitié de son personnel politique dans tous les ministères, ils n'ont pas changé de conviction non plus. Donc, quand François Legault a l'occasion de faire vibrer cette corde nationaliste, je peux vous dire, parce que je les entends, je les connais, il y a une bonne partie de son armée là, qui redouble d'ardeur au travail. Donc, c'est de la bonne politique pour lui à ce stade-ci. maintenant qu'il est au gouvernement. Il ne se serait pas permis ce genre de commentaires en campagne contre Philippe Couillard, par exemple.
En anglais, dans l'ouest de Montréal, par exemple. Est-ce que cette sensibilité, cette impression, cet état d'esprit dans l'armée ou la moitié de l'armée caquiste, Frédéric Lapointe, est un peu celui d'une partie de l'armée péquiste aussi, non?
Bah, du côté du Parti québécois, nous, on est prêts à faire un référendum dès que possible. Et contrairement peut-être à François Legault, le changement au Parti québécois, c'est que nous, on n'a pas peur de perdre. On a peur de ne pas pouvoir jouer. On a peur de disqualifier ou de sortir le Québec de cette liberté, de cette possibilité que de faire son indépendance.
Alors d'après vous, des péquistes de perdre, là, qui pensent comme François Legault que c'est pas vraiment faisable dans l'avenir prévisible, vous pensez qu'il n'y en a plus? Ils sont tous rendus à la CAQ, au fond?
Ben, ils ont une option politique pour les servir et ils en sont... Pour le moment, ils en sont
satisfaits. Frédéric Bérard, on entend cette pub radiophonique, on l'a entendu juste avant le début de cette émission, qui commence en disant, c'est pour les mesures sanitaires, bien sûr, et ça commence en disant, ce message s'adresse à l'ensemble de la nation québécoise. J'entends ça depuis plusieurs jours en me disant, je me demande ce qu'on pense de ça, justement dans l'ouest de Montréal ou dans certaines zones, et j'ai envie de vous demander, Frédéric Bérard, les acidiques d'Outremont, là, qui sont devant la justice en ce moment, qui se sentent lésés par les mesures parce qu'ils ne peuvent pas prier en groupe suffisamment nombreux comme ils le souhaiteraient. Se sentent-ils, d'après vous, concernés par l'ensemble de la nation québécoise? Et par ailleurs, si je vous pose la question à vous, c'est pour savoir si ils ont une chance de gagner quelque chose devant les tribunaux.
Bon, la première question, non, je ne pense pas qu'ils aient de chance de gagner quoi que ce soit. La liberté de religion n'est pas absolue, on le sait ou on devrait le savoir. Et puis voilà, c'est ça, à mon sens, c'est clairement une perte de temps. Une fois qu'on a dit ça, par contre, j'aimerais bien, moi, qu'on leur lâche les baskets aux acidiques, parce que à voir ce qui s'est passé dans le traitement médiatique depuis quoi, une semaine, 10 jours, ça se demandait si c'est pas les 6 acidiques d'Outremont là, qui ont foutu la pandémie à travers le Québec, sinon dans le Canada tout entier. Franchement, là, il faudrait peut-être qu'on
Vous trouvez que ça a été dur à leur endroit? Il me semble que ça a été assez pudique pour un moment, non?
Ça excite tellement de médias de « Ah, regardez comme ils s'en fichent! » Puis blablabla, blablabla. Puis un reportage, puis 2, puis 3, puis 4, puis 12. Quand il y avait 10, 15, 20, 25 000 bozos qui manifestaient contre des masques, pas de masques, pendant que la mesure masque était adoptée, devant des policiers qui ne les arrêtaient pas, c'est drôle. Moi, j'ai entendu personne dire « Regarde les Québécois comme ils sont comme ça, les Québécois. » Puis vous êtes les premiers, et je parle à vous, Nick Payne, et à vous, Frédéric Lapointe, à grimper dans les rideaux, parfois à juste titre, quand Toronto dit que « Ah, regardez, les Québécois sont racistes. » Ben là, on est en train de faire exactement la même affaire de l'autre bord. C'est « Ah, ben dans le fond, hein, s'il y a des acidiques qui violent les règles, ben c'est parce qu'ils sont acidiques à la base, c'est pas parce qu'il y a des niaiseux dans la gang. Puis évidemment, c'est l'ensemble des acidiques ici. Donc franchement, là, tu sais, il faut faire attention. C'est vraiment cette espèce d'acharnement-là, alors qu'on a des bozos, là, il y en a chez les acidiques, c'est clair, c'est net, c'est précis, mais je pense pas qu'il y en a beaucoup moins chez les non-acidiques à Montréal. On l'a vu à Montréal ou ailleurs au Québec, on l'a vu depuis 9 mois, les trucs de masse, les trucs de vaccins, les trucs de « fuck you, Legault, on veut avoir notre Noël », puis gna 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 gna. Je suis pas sûr, moi, que Steve, l'artiste charlant, puis sa gang de Wobo dans leur petite grange, là, à faire justement les « fuck you, Legault », à se cracher d'en face parce qu'ils voulaient avoir le sucre à la crème. Pas certain qu'ils ont eu des menaces de mort.
Bon,
comme la
prenez votre daiquiri égal, Frédéric Bérard. Nous en avons pris pour notre rhume. Donc, Frédéric Lapointe, la question de la façon dont je l'ai posée s'inscrivait, selon vous, dans cette ambiance médiatique de chasse aux sorcières ou d'une forme d'intolérance à l'endroit des acidiques, d'après vous?
Bon, ben, je pense que les acidiques ont eu le même traitement que nos touristes dans le sud. Donc,
oui, ben, il me semble, oui, ou les manifestants sans masque, là, on s'est bien moqué aussi. Je comprends qu'il n'y avait pas de connotation d'un groupe culturel, quoique.
Quoique, mais il faut savoir que dans le cas des acidiques, je peux prétendre les connaître un peu, il y a toujours une telle chose qu'un conflit entre... suivre la loi des hommes et suivre la loi de Dieu. Et ça leur est assez particulier. D'ailleurs, si vous regardez ce qui se passe en Israël, vous allez trouver que Outremont, là, c'est le grand calme plat, là. En Israël, ça se bat les forces de l'ordre et les acidiques à coups de bâton puis de canon à eau. Donc, faut pas penser que que ce genre de tension là est unique à ce qu'on vit au Québec. C'est assez particulier à cette communauté, puis je les blâme pas, je veux dire, les communautés sont plus religieuses que d'autres, ça entraîne des tensions, et la réaction des autorités au Québec est, ma foi, fort modérée quand on regarde, par exemple, ce qui se passe en Israël.
Bon, je resterai donc seul avec ma question. Tant pis pour moi, ça m'apprendra, mais on a quand même eu des réponses intéressantes. Frédéric Bérard, on a entendu cette semaine la volonté de François Legault de... il espère pouvoir apporter certains assouplissements, même si le couvre-feu, comme on s'en doutait, là, sera maintenu encore pour un temps. Pour les commerces non essentiels, notamment, puis on annonce tranquillement, avec une certaine forme de sinon d'optimisme ou de satisfaction, des chiffres, des indicateurs un petit peu à la baisse là, dans certains cas, les hospitalisations, le nombre de décès aussi. Est-ce qu'on n'est pas en train de faire l'erreur, il me semble qu'on a peut-être fait souvent au cours de cette pandémie, c'est-à-dire y aller de messages forts pour faire bien comprendre aux gens que la situation est grave, et là ça marche, comme par exemple le couvre-feu. Et puis ensuite, on veut tellement donner un anane, donner de l'espoir, montrer la lumière au bout du tunnel, qu'on se montre un peu plus optimiste. Et là, vous le voyez immédiatement dans les rues de Montréal, c'est visible, je le voyais aujourd'hui même, il y a beaucoup plus de monde qu'à l'habitude ces derniers temps. Dès qu'on envoie un peu le message que ça va un peu mieux, on dirait que tout le monde retraite un peu sur les mesures. Pensez-vous qu'on aurait dû rester ferme ou s'il est nécessaire de montrer un peu d'optimisme?
Il y a plusieurs aspects. Je pense que votre analyse, Nick, est excellente à la base. Je la
bon, pour une fois.
Pour aujourd'hui, c'est la meilleure que vous avez eue.
Bon.
Non, farce à part. Moi, j'aimerais pas être dans les souliers de Legault n'importe quel dirigeant actuellement, parce que c'est certain qu'il y a des enjeux de santé mentale qui sont importants, il y a des enjeux économiques qui sont importants, des enjeux familiaux, les étudiants, cégep, université, tout ça, ça commence à être lourd, et puis moi-même, on en a parlé tout à l'heure, pour la première fois depuis 10 mois, je commence vraiment à en avoir marre de tout ça, là, ça m'a frappé cette semaine. Et donc, tout ça pour dire que malheureusement, et c'est là que je pense que vous avez le plus raison, rappelons-nous ce qui s'est passé cet été. Tout le monde, on voulait avoir l'accès au camping, tout le monde voulait avoir accès aux glissades d'eau, tout le monde voulait... Bref, on a repris un peu notre vie d'antan, disons-le franchement, et aussitôt que tout ça a été fait avec la reprise des écoles début septembre, la deuxième vague est partie là, en fou. Donc, est-ce qu'on n'est pas en train de faire la même erreur? Est-ce qu'on n'est pas mieux de me demeurer ferme encore pendant un bout de temps, sachant que le couvre-feu, par ailleurs, a bien l'air de fonctionner. Évidemment, c'est pas la seule variable et c'est difficile de l'isoler là pour savoir s'il y a une corrélation de cause à effet qui est parfaite.
Voire impossible. On peut que ne faire des hypothèses là-dessus, évidemment.
Exactement, mais avant le couvre-feu, on était au-dessus de 3000 contaminations par jour. Aujourd'hui, on oscille à 1100, 1002, 1003. Donc, c'est pratiquement 3 fois moins. Est-ce que c'est seulement dû au couvre-feu? Évidemment, non. Est-ce que le couvre-feu est un élément essentiel? Selon toute vraisemblance, je dirais que oui. Donc, en même temps, est-ce que... Tu veux pas non plus faire craquer la province, mais le problème, c'est que si on étire pas, puis on recommence, mais là, on se rebalance dans une troisième vague, et surtout, peut-être, compte tenu du nouveau variant du virus. Le danger, il est là. Parce que là, actuellement, les pharmaceutiques nous disent « Oh non, ça va, notre vaccin est fiable pour même les nouveaux variants. » Mais à la vitesse qu'ils rendent ces vaccins-là, est-ce qu'on va avoir le temps d'éviter une troisième vague qui pourrait être encore plus meurtrière? Donc si je suis François Legault, franchement, là, je me tape la tête sur les murs, puis je suis assez certain que c'est ce qu'il fait d'ailleurs.
Alors, le mot a été lâché. Province, Frédéric Lapointe, est-ce que la province, d'après vous, je fais exprès pour reprendre le mot de Frédéric Bérard, ce ne serait pas le mien, mais est-ce que...
Excusez-moi,
oui,
c'est
oui.
Un gros juron dans le...
Oui, oui, c'est ça, avec des souverainistes, mais vous êtes vous-même en province, vous êtes donc un provincial. Oui, mais Frédéric Lapointe, est-ce que le Québec a besoin de voir un peu de lumière au bout du tunnel, ou est-ce que... parce qu'on êtes-vous d'accord avec nous pour dire qu'une mesure comme le couvre-feu est sans doute, on présume qu'elle est efficace de façon directe, mais aussi indirecte, c'est-à-dire qu'elle envoie un message très fort à l'effet que l'heure est grave, il faut être prudent. dedans. Et cet effet-là est peut-être aussi important que l'effet direct, allez savoir. Et par conséquent, lorsqu'on commence à dire, bon, ben ça va un peu mieux, est-ce qu'on vient pas saper un peu ces efforts-là et prendre le risque, comme le dit Bérard, d'une troisième vague ou d'un autre retour? On a l'impression d'être dans une espèce d'accordéon là, ou de serpent là, qui avance par à-coups, qui se distend, qui se contracte, et puis comme quand on est pris dans un bouchon de circulation, là, vous voyez ce que je veux dire?
Oui, ben, d'emblée, je veux dire que je suis pas du même avis que Frédéric sur le fait que je ne voudrais pas être à la place de François Legault pour prendre des décisions.
Ah, je pensais que vous étiez en désaccord sur la justesse de mes analyses.
J'adorerais être à la place de François Legault. Je les envie de vivre ces moments difficiles, mais quand on veut faire de la politique, quand on se présente en politique, c'est précisément pour vivre ce genre de situation.
Vous voudriez faire ça, vous?
Pourquoi on se présente en politique si c'est pas pour faire ça? Bien sûr que je voudrais faire ça.
Oui, mais là, c'est vraiment pour des gens qui veulent être réélus et être aimés, c'est très compliqué de renvoyer tout le monde enfermé chez lui après 8 heures, se faire accuser de dictateur sanitaire et le reste.
Écoutez, on peut être au pouvoir pendant 8 ans, ne rien faire, et perdre sa cote d'amour à la fin quand même. Alors, aussi bien vouloir faire de la politique pour y faire des choses importantes et à la place de gens dont on pense qu'ils ne prendront pas les meilleures décisions par ailleurs. Mais sur le fond de la question, ce qui se pose, c'est l'option, il y a deux options au fond, qui sont de cesser de respirer, tout fermer en espérant que le virus disparaisse à un point tel qu'on en sera débarrassé, ou naviguer entre les deux eaux, ce que le gouvernement fait. Alors, si on était une île comme Taïwan, la Nouvelle-Zélande, ou une presqu'île comme la Nouvelle-Écosse, je vous dirais que c'est une option qui serait vraiment à envisager. Mais nous pourrions nous retrouver avec des efforts maximaux, une crise économique plus avancée, des suicides qui augmentent et des déprimés chroniques, et ne pas pour autant réussir à éteindre le virus, ce qui nous mettrait dans une position où on a les deux, on a Caribe et on a Scylla, là, c'est-à-dire on a les deux pires mots. Et comme le Québec est une province plus grosse, plus ouverte, hein, je le répète, on n'est pas une île, que le gouvernement ait choisi de naviguer entre les deux eaux, de ménager les inconvénients, par exemple de garder les écoles ouvertes, par exemple de laisser les gens aller en vacances l'été. Moi, je pense que tous ces choix-là, au final, nous ont amenés quelque part dans un compromis qui est le compromis le plus viable. Et on va vivre encore la même chose cet été. Pensez pas que le virus va être disparu parce que 33% des gens vont être vaccinés. Le même dilemme va se poser dès le mois de mai quand on va vouloir prendre un daiquiri à côté du barbecue ou de la piscine à Terrebonne en bonne compagnie. Et je vous prédis que non, le gouvernement enverra pas la police à 4h30 de l'après-midi nous empêcher de le faire. Pourquoi? Parce que à un moment donné, la population va en avoir vraiment marre, et il n'y aura pas suffisamment de policiers pour tout contrôler. Donc oui, il va y avoir une troisième vague. Il se peut malheureusement que ça affecte les universités, comme je le disais, mais entre ça et tout fermer et néanmoins avoir le virus qui demeure parmi nous, je pense que c'est le meilleur compromis possible.
Alors, vous avez employé le mot province, vous aussi. Là, c'est une émission difficile pour moi. dites-moi, en terminant là-dessus, Frédéric Lapointe, est-ce que donc vous êtes d'accord avec l'idée de commencer à assouplir certaines règles sanitaires là, dans les prochaines semaines, par exemple pour les salons de coiffure, les salles de sport, je ne sais trop, les commerces non essentiels?
Il y a deux options. Si on choisit l'option d'éteindre le virus, de se donner 2-3 mois pour éteindre le virus sur le territoire de l'État du Québec, il faut fermer les écoles, il faut à peu près fermer les épiceries, il faut transformer les hôpitaux en bunker. Vous ne voulez pas aller là. On ne sait pas ce que c'est, mais je vous dis que vous ne voulez pas aller là. Du moment où on est déjà au tiers ou à moitié ouvert, il y a toutes sortes de restrictions qui commencent à avoir beaucoup moins de sens. Et oui, ça peut inclure les centres d'entraînement, oui, ça peut inclure les coiffeurs. Et donc, il faut les regarder tous à la pièce. Mais on va de toute façon être dans une zone de compromis.
En terminant, il nous reste quelques instants. Frédéric Bérard, la question des vaccins. Est-ce que vous entrevoyez une forme ou une autre de réticence? On pense à des peuples comme les Français, par exemple, qui étaient, dans certaines études d'opinion, à 1/2 méfiants devant la possible vaccination ou la vaccination, peu importe. Est-ce qu'on peut imaginer une chose comme celle-là au Québec? Est-ce qu'il y y aura des écueils quand ça va devenir plus... C'est pas encore très concret hein, pour la vaste majorité des gens. Ça s'est passé dans les ressources pour les personnes âgées, les CHSLD et autres, mais bientôt, ça va toucher la plus grande partie de la population. Comment voyez-vous ça arriver, vous?
Moi, c'est une des affaires qui m'inquiète le plus là-dedans, l'espèce de baisse du quotient intellectuel collectif qui fait en sorte que... Puis c'est pas
alors, d'après vous, c'est pas brillant là, de se méfier des vaccins. Ben, vous voyez pas de raison valable, de, je sais pas moi, les intérêts du grand commerce, ben, des entreprises pharmaceutiques?
C'est assez facile de tomber dans la théorie du complot, mais... à ce que je sache, tout a commencé avec la pandémie. D'ailleurs, on pensait que c'était Bill Gates qui avait financé la création du virus pour pouvoir vacciner de force les pauvres citoyens en leur plantant une pastille machin pour savoir où ils vont comme si ça l'intéressait.
Oui, avec l'aide des raéliens ou de la planète Mars.
À 5G. Mais je blague, mais j'en suis triste parce que évidemment, on peut être critique de Big Pharma. Évidemment, on peut être à avoir des doutes sur la valeur scientifique de X, Y, mais pas de là à incarner ça comme une croyance établie. Franchement, je pense que les preuves sont à l'effet contraire. Évidemment qu'il y a une part de risque, c'est certain, mais entre ça et ce qu'on vit actuellement, à mon avis, le choix est d'une évidence. Et une fois qu'on a dit ça, et ça, c'est peut-être le pire, regardez ce qui se passe, vous avez parlé de la France, c'est la même chose aux États-Unis, il y a un nombre effarant parmi le personnel soignant qui refuse la vaccination. Et ça, c'est parce que c'est à se demander à quel point on va être capable de passer à travers si, je sais pas, là, évidemment, dépendra des chiffres, mais et j'exagère probablement, mais si, disons, 35% de la population refusait le vaccin, est-ce qu'on en a suffisamment pour taper une immunité collective? Je pense qu'elle est située à 70, si je ne me trompe pas. Et là, tu fais quoi avec ça? Ben là, à ce moment-là, il faut que tu poses la question, est-ce que la vaccination devient obligatoire? Et si oui, ben là, c'est à l'eau le test des tribunaux. Je pense que ça passerait la rampe encore une fois. Mais reste que c'est quand même assez fascinant. Quelle époque, disiez-vous tout à l'heure, encore une fois, d'avoir à s'obstiner pour des choses qui me semblent d'une évidence quand même assez claire et nette.
On est rendu là. En terminant là-dessus, Frédéric Lapointe, les Français, eux, ont vécu des scandales pharmaceutiques, sont plus critiques en général devant la grande entreprise. C'est peut-être que ça relève de ça, là, leur méfiance. Pensez-vous qu'ici, le risque d'une telle désaffection ou d'une telle méfiance est réel?
Ouais, ben il va y avoir un pourcentage de gens qui n'obtempéreront pas. On a même un pourcentage de gens au Québec qui n'ont pas de carte d'assurance maladie. Alors, il y a toujours une part d'anarchisme ou de refus de l'ordre. Mais je suis pas trop inquiet pour la France, ni pour nous d'ailleurs. Je pense que la vaste majorité des Français, comme pour plusieurs activités de leur vie courante, ils vont se livrer à l'exercice dans la mauvaise humeur, en maugréant, en critiquant, mais ils vont se conformer. Je pense que ça va être la même chose au Québec. Au final, dans les familles, dans les milieux de travail, ça va devenir assez difficile de justifier le fait de refuser le vaccin. Je pense que ça va être une petite mort sociale pour ceux qui s'y refuseront.
Là. C'était très poétique comme conclusion. Allez en paix, en maugréant, dans vos provinces respectives.
Mais Nick, si je pouvais juste ajouter, quand Frédéric dit qu'il aimerait être à la place de Legault, moi, je le crois, parce que pour moi, la pointe, et je le dis sans sarcasme, personnifie ce que devrait être un homme d'État. Il est consciencieux, il est juste, il est pondéré, puis voilà, c'était mes petites fleurs de la semaine, profitez-en.
Bon, l'homme d'État, il est en bon état également, je vous le confirme, on le voit toujours faire du sport sur Facebook. Cher collaborateur Frédéric Bérard, chroniqueur au journal Métro, Frédéric Lapointe, fondateur de la Ligue d'action civique et sans doute d'action physique aussi, en pleine forme. À la semaine prochaine. Dans un instant, Éric Bédard nous parle des territoires autochtones non cédés. À tout de suite.
Prenez note que l'émission Société a été enregistrée en direct samedi dernier. Elle vous est présentée ce matin en rediffusion. Pour l'écouter en direct, synchronisez Radio-VM le samedi à midi.
Alors, pour faire suite à ce qu'on disait en début d'émission sur Montréal, ce territoire peut-être non cédé par les Mohawks, on apprenait récemment que l'équipe de soccer de Montréal, alors là, vous vous demandez où est-ce que je m'en vais avec ça, procédait à un changement de nom. Hein, l'Impact est devenu le club de foot Montréal. Dans la vidéo de présentation de ce projet, de ce changement de marque, on s'exprimait en français, en anglais et en Mohawk. Moi, ça m'a un peu surpris. Ça m'a fait réfléchir sur cette question-là. Ça a fait réfléchir manifestement Joseph Facal, qui publiait un texte dans le Journal de Montréal à cet effet, intitulé de façon très claire « Montréal n'a jamais été un territoire Mohawk ». Alors, avant de se demander si c'est vrai ou non, ça, le passé Mohawk du territoire montréalais, commençons par nous demander ce que c'est exactement un territoire non cédé. On a pensé poser cette question à Éric Bédard, historien, professeur à la TELUC. Il est au bout du fil. Bonjour, Éric Bédard.
Bonjour, Nick Payne.
Alors, un territoire autochtone non cédé, à quoi on réfère exactement, là, au-delà de l'espèce de cri de ralliement idéologique que représente l'exercice qu'on fait là, quand on ouvre un discours, comme la mairesse de Montréal le fait, par exemple? De quoi on parle plus objectivement?
Ben c'est une forme de c'est l'idée toute simple que le territoire presque l'ensemble du territoire québécois ou canadien était un territoire possédé par des peuples qui ont habité l'espace avant l'arrivée des Français, des Européens. Et donc, vous êtes chez nous, c'est le message, vous êtes chez nous, c'est un territoire qui n'a jamais été cédé, vous vous en êtes emparé, et voilà. Donc, de façon symbolique, à chaque fois que vous prenez la parole officiellement, vous le reconnaissez. Bon.
Mais j'avais compris, juste un instant, moi j'avais compris que on se permettait ce genre d'assertion sur des morceaux de territoire où il n'y a pas de, qui ne font pas l'objet d'un traité ou d'un autre là, qui reconnaîtrait.
C'est bien le problème, c'est que là, ce que je vais vous dire là, je m'appuie sur un livre qui est passé malheureusement complètement inaperçu. Il y a 2 ans ou 3 ans de ça, publié chez Septentrion, le livre de René Morin, qui s'intitule « La construction du droit des Autochtones par la Cour suprême du Canada », témoignage d'un plaideur. René Morin, pour une histoire courte, a été l'avocat chargé par le procureur général du Québec de plaider la cause du Québec lorsque ça se retrouvait devant les cours d'appel ou cours suprême, où il y avait justement des revendications territoriales. Donc René Morin, de façon très prudente, non polémique, nous raconte son expérience de plaideur, nous raconte l'évolution du droit autochtone et nous montre noir sur blanc, mais je le répète de façon non polémique, hein, il ne cherche pas à régler ses comptes, il n'y a pas un livre d'amertume, c'est un livre d'étonnement. Il fait part de ses étonnements au cours de sa carrière d'avocat, de certaines décisions d'un pli qu'a pris la jurisprudence. Et ce qui nous explique bien, c'est que c'est cette histoire de traités, là, des traités qui auraient existé. Tout ça remonte à la capitulation de Montréal, donc 8 septembre 1760, donc l'article, pour être bien précis, l'article 40, et la proclamation royale qui va suivre 3 ans plus tard pour confirmer en gros le traité de Paris, mais pour le rendre plus précis. Et on a là un article aussi dans la proclamation royale qui parle de possession entière et paisible des Autochtones et qui dit que les colons n'auront pas le droit d'acheter ou de prendre possession de territoires qui sont réputés, appartenir à des Autochtones. Et pourquoi les Britanniques font ça à l'époque? C'est parce qu'ils veulent acheter la paix. C'est parce qu'ils veulent acheter la paix avec des peuples autochtones qui ont été historiquement les alliés des Français durant tout le régime français, et ce qui a d'ailleurs parfois terrorisé certaines populations du nord-est des États-Unis. Il y a un homme qui s'appelle William Johnson qui a bien compris cette dynamique des Autochtones et des Français. Les Américains appellent ça les French Indians Wars, la fameuse guerre de 7 ans. Et donc, ce William Johnson, je conseille les Britanniques, et les Britanniques veulent aussi dire, envoyer un message aux Américains, attention avant de vous aventurer vers l'Ouest, là, tous ces territoires-là, sont pas les vôtres. Ils appartiennent à des Autochtones avec qui, d'ailleurs, nous voulons faire alliance parce qu'il y en a qui se rebellent. Hein? Et donc, ne touchez pas à ces terres-là, ce qui, évidemment, a heurté énormément les Américains de l'époque.
Alors, on a instrumentalisé, en quelque sorte, le concept de possession du territoire?
Oui. Denis Vaugeois est un fan, Denis Vaugeois, l'historien, est un grand admirateur de William Johnson. En effet, c'est un homme qui a énormément tenté de comprendre, qui a beaucoup travaillé avec les Autochtones, qui a tenté de comprendre, d'entrer en communication avec eux, qui a montré beaucoup d'ouverture. Mais évidemment, il y avait quelque chose de très pragmatique chez les Anglais, c'est-à-dire acheter la paix, éviter que les Anglais, les Américains plutôt, s'emparent de toutes les terres à l'ouest. Mm-hmm. Et que ça soulève encore des problèmes. On venait de sortir d'une guerre de 7 ans, très coûteuse. Donc, calmer le jeu, acheter la paix, mais sauf que ces deux articles, celui de la capitulation de 1760 et celui de 1763 de la proclamation royale, ont été historiquement les bases juridiques des communautés autochtones canadiennes pour dire, ben voilà, dès le départ, dès la naissance d'une forme de présence britannique, éventuellement ça va être poursuivi, et ça a été reconnu dans la loi constitutionnelle de 1982, mm-hmm. Il y a un pacte, il y a une sorte de grande charte entre les Amérindiens, les Autochtones et la couronne, et il faut faire valoir les droits. Bon, alors ça, à ça a répondu...
On ne peut pas leur reprocher d'avoir ce point de vue-là, vu de leur perspective,
bien
évidemment.
Bien sûr. Mm-hmm. Alors, les autres, ils s'appuient là-dessus, et ça a été confirmé, je le répète, par la loi constitutionnelle, l'article 35 de la loi constitutionnelle de 1982, et donc, ils vont avoir une série de conflits juridiques entre des fois les provinces et les communautés, et ça va se rendre parfois jusqu'en Cour suprême. Mais ce que fait valoir René Morin, et c'est ça qui m'a beaucoup frappé dans son livre, c'est que par exemple, il y a une histoire là il y a des Algonquins en 1996 dans la région de Maniwaki qui vont plaider qu'ils ont des droits de pêche. Bon. Des Algonquins, bon.
Sur un territoire donné, là, évidemment.
Sur un territoire donné, en disant, ben voilà, c'est un territoire ancestral, on considère que bon, nos ancêtres allaient pêcher là, et bon. Et là, ce que dit René Morin, son argument, c'est de dire, ben écoutez, peut-être qu'en effet, il y a eu beaucoup d'Algonquins. D'abord, les Algonquins sont un peuple nomade, alors comment circonscrire un territoire très précis lorsqu'on a affaire à des nomades, premièrement, ça c'est un problème. Puis deuxièmement, à l'époque de la Nouvelle-France, il n'y avait pas de traité sur des cessions de territoire bien délimitées, parce que les Français avaient une autre conception de la propriété.
Une autre approche, c'est bien ça. Est-ce que je comprends, j'ai bien compris que le Québec est moins quadrillé par des traités de ce genre-là, c'est ça?
Absolument. Donc, il y a eu des traités au 19e siècle avant la Confédération, mais disons, si on se reporte au régime français, l'approche française, c'est de dire, dès lors que vous êtes des chrétiens, on vous considère comme des naturels François. Vous devenez des Français. Et on avait aménagé pour favoriser cette conversion des villages. Et donc, ces Indiens qui acceptaient d'y vivre devenaient des Indiens domiciliés et étaient dans une sorte de processus de naturalisation. Vous voyez un peu la logique.
Mais c'est fascinant, Éric Bédard, parce que ce que vous nous décrivez là, ce que vous esquissez progressivement, ça nous rappelle les distinctions qui ont cours aujourd'hui entre le Québec et le Canada, le multiculturalisme d'un côté qui, mise sur les identités diverses et de l'autre, cette volonté d'intégrer, de dire nous sommes tous Québécois, puis voilà, une volonté parfois un peu candide d'ailleurs.
Oui, candide, et bon, on pourrait dire que évidemment il y avait un présupposé chez les Français d'Ancien Régime que être un être civilisé, c'était forcément être chrétien, donc une forme d'intolérance avec nos critères d'aujourd'hui. Donc pour être un bon français naturel, un bon naturel français, il fallait être un catholique et éventuellement vivre sur une terre, devenir un agriculteur, c'était tout le travail des missionnaires que de sédentariser les Indiens. Mais ce sur quoi René Morin insiste, c'est que étant donné cette perspective, cette vision des choses, il n'y avait pas de traité formel entre des peuples et la couronne française. Il y avait une autre approche, mais complètement différente, et en plus, avec des peuples qui étaient pour l'essentiel des peuples nomades. Donc, vous voyez, donc ça ne marchait pas avec... Alors que les Anglais ont développé plutôt tôt que les Français une conception qui nous est beaucoup plus familière aujourd'hui de la propriété, c'est-à-dire la propriété comme un bien meuble, hein, une propriété qu'on achète, qu'on transige. Alors que dans la conception d'ancien régime français, la propriété, c'est non, on est dans le domaine du roi, le domaine du seigneur. Il y a des droits et devoirs de part et d'autre. Le seigneur nous protège, puis nous, en retour, on lui donne une partie de nos grains. On travaille un peu sur des corvées. Mais vous voyez, on a une autre conception de la propriété. Et ce que nous dit René Morin, c'est qu'à un moment donné, il fait valoir cet argument-là devant la Cour suprême, et la Cour suprême balaie ça du revers de la main. Et donc, René Morin a une formule assez comique.
En disant que cette particularité-là n'existe pas ou n'est pas valide?
N'existe plus du point de vue de la Cour suprême du Canada. Mm-hmm. Tout ce qui compte, c'est la proclamation royale, c'est l'acte de capitulation. Mais toutes les relations qu'ont entretenues la couronne française avec les Amérindiens, à tout le moins au Québec, avec cette approche différente, n'est pas tenue en compte, n'est pas tenue, on n'en tient pas compte, c'est comme si ça n'avait pas existé. Et à travers ça, ce que montre René Morin, c'est une forme d'activisme juridique, c'est-à-dire qu'on a, et ça c'est la grande critique qu'on fait aussi au Québec de la loi constitutionnelle de 82, c'est-à-dire que des questions qui devraient être résolues par la politique, parce qu'il y a une démocratie, il y a des élus, il y a des débats, il y a des discussions, eh bien, sont transférées au juridique. C'est une judiciarisation du politique. Eh bien, ce phénomène-là s'est produit à grande échelle, à l'échelle canadienne, pour le droit autochtone, et toujours en favorisant le point de vue autochtone et en ne tenant pas toujours compte des données historiques, disons, et des contextes. Dernier élément sur lequel insiste René Morin, qui m'a beaucoup frappé, c'est la manière dont on plaide les causes de propriété de traités autochtones. Et ce que fait valoir René Morin, c'est que chaque parti amène son historien spécialiste, donc la couronne, ou c'est-à-dire le gouvernement et les autochtones. Et les historiens, c'est comme n'importe quoi, vous êtes payé par une partie, vous essayez de donner satisfaction à la partie qui vous paye.
À votre client, oui, bien sûr.
À votre client, exactement. Et ce que dit René Morin, c'est que finalement, la Cour, et c'est toujours entre deux interprétations et comment faire son comment avoir un point de vue peut-être un peu au-dessus de la mêlée. Alors, il suggère que la Cour est son ami de la Cour, tu sais, on a des spécialistes indépendants qui pourraient donner des avis, formuler des avis. Mais, donc, voilà dans le contexte dans lequel on est, surtout depuis 1982, une constitution qui a reconnu, d'ailleurs qui n'a pas reconnu ce que souhaitaient les Québécois.
Consacre finalement le mode d'opération, l'état d'esprit, la façon de faire les choses britannique davantage. Rappelons le titre du livre de René Morin, parce que vous nous donnez le goût de lire, c'est La Construction...
Oui, c'est un livre qu'il faut absolument lire, La Construction du droit des Autochtones par la Cour suprême du Canada, témoignage d'un plaideur.
Chez Septentrion.
Chez Septentrion, je répète, c'est un livre qui n'est pas polémique, c'est un livre qui se veut le plus factuel possible. C'est pas un règlement de compte. Mais en même temps, ça donne froid dans le dos. Mais poursuivons. Je ne sais pas combien de temps il me reste, Nick.
Vous avez quelques heures. Non, pas de farce. Quelques minutes encore. 5-10 minutes. Allez-y.
Mais je voudrais pas finir cette entrevue sans avancer l'idée suivante. C'est que là, on est dans le symbolique. C'est-à-dire, les élus se donnent un peu bonne conscience, ou les représentants de différentes institutions, en disant toujours, en répétant...
Mais bien sûr, j'allais y arriver. Ce sont d'ailleurs les militants de la cause autochtone, tout comme d'autres qui sont plus conservateurs, si on veut, ou moins friands de ce genre de cause-là, disent la même chose, c'est que c'est une façon de se faire du capital de vertu peu de frais.
Et moi, j'ai toujours envie de dire, mais quelle est la prochaine étape? Alors, si, en effet...
Mais il n'y en a jamais, évidemment. C'est comme dans le cas des nombreux traités dont on parle au Canada ou dans l'Ouest. Je crois comprendre qu'on avait derrière la tête l'idée que, de toute façon, la force du nombre ferait les choses, et puis traité ou pas, à un moment donné.
Donc,
oui.
À ce moment-là, si on affirme ça ad nauseam et on répète ça comme des mantras, très bien, mais soyons à ce moment-là conséquents. Alors, ça veut dire quoi, si on est sur un territoire non cédé? Est-ce qu'on doit négocier la cession de ce territoire?
Mais ce qu'on a vu jusqu'ici, ça veut dire des sommes d'argent, des redevances, des montants. On pense à ce village là, dans l'Ouest canadien qui paye 49 millions de dollars, je pense, un territoire d'à peu près 80 acres sur lequel il y a un village. Là, puis là, il a été reconnu là, comme étant sur un territoire non cédé.
OK, mais une fois qu'on l'achète, est-ce qu'on en devient le propriétaire? Est-ce qu'il peut y avoir des recours?
Ou est-ce que plus tard, on va dire, bon, vous n'avez pas négocié avec la bonne instance, les chefs héréditaires, eux, décident que c'est pas valide?
Mais là, si on prend le cas de Montréal, alors justement, revenons à, faisons la boucle avec votre début, est-ce qu'on négocie avec les Mohawks la cession du territoire montréalais? Les Mohawks, en effet, n'étaient pas là à la fondation de Montréal.
Bon, alors c'est ça, parlons-en. Oui, oui.
Oui.
Jacques Cartier parle du village d'Hochelaga. En 1530-quelques, lorsqu'il est venu à Montréal, c'était des Iroquoiens, si je comprends bien. Ces gens-là n'étaient plus là siècle plus tard à la fondation de Montréal, mais des Mohawks sont revenus ou sont venus s'installer dans les missions chrétiennes plus tard dans ce siècle-là ou dans le siècle suivant. Et c'est à partir de ça qu'ils disent, en tout cas leurs représentants aujourd'hui disent, c'était un retour chez nous, en fait. Nous avons déjà occupé ce territoire et les Blancs qui prétendent autre chose, même si des gens comme Serge Bouchard, qui est pourtant critique du colonialisme et d'une version de l'histoire qui serait, comment dire, embellie ou orientée à la faveur du colonisateur, dit lui-même qu'il n'y a pas de preuve de ça. Même l'archéologie nous indique autre chose. Mais les Mohawks persistent et disent, mais au fond, c'est parce que vous êtes blanc, forcément, votre conception de l'histoire, votre histoire est biaisée.
Oui. Bon, alors voilà, il y a beaucoup, beaucoup de problèmes dans tout ça. Alors, premièrement, au moment de la fondation de Montréal, 1742, on peut penser, probablement que ceux qui pourraient le plus revendiquer une forme d'appartenance ou de circulation sur le territoire de l'époque, et ça, je le tiens de Denis Delage, c'était les Algonquins et non plus les Iroquois, mais les Iroquois ou les Mohawks de quelque façon, qui étaient complètement disparus de la carte depuis au moins un demi-siècle. Ben, les raisons de cette disparition-là
sont pas connues, hein?
Sont pas vraiment connues. On pense à des guerres. Nicolas Perrault, par exemple, dans un de ses récits, évoque des guerres de ce que certains vont appeler la coalition laurentienne, hein, donc Algonquins, Innus, Etchemins, contre les Iroquois du Sud, et qui va être remportée par cette coalition. D'autres parlent d'épidémie. Le fameux voyage de Robert Val de 1541-42 aurait introduit des épidémies, mais pourquoi ça aurait affecté plus les Iroquois que les autres, bon, peu importe. Alors, donc, il y a des hypothèses. Il y en a qui disent qu'il y a eu un refroidissement.
Un refroidissement, bon, oui, absolument.
Il y a toutes sortes d'hypothèses, mais en tout cas, on peut penser que... Moi, je penche plus du côté de la première hypothèse, parce que quand Champlain arrive en 1603, je vous rappelle, hein, la coalition laurentienne, les Innus fêtent une grande victoire contre les Iroquois. Donc, on peut penser qu'il y avait une guerre continue et les Français vont s'intégrer à une lutte qui les précède.
Juste une parenthèse, Éric Bédard, pour démêler nos auditeurs, faire la distinction entre les Iroquois, les Iroquoiens, les Mohawks, qui, eux, étaient plutôt dans la région d'Albanie, ou en tout cas, c'est de là dont ils viennent.
Alors, les Mohawks, alors c'est ça, excusez-moi, là, c'est un peu compliqué, mais en effet...
Ah, mais c'est pas de votre faute, non.
Les Iroquois, c'est comme une grande, grande famille qui regroupe tout, en gros, tous les sédentaires ou les semi-sédentaires, notamment les Hurons, mais les Hurons étaient en guerre contre les Iroquois, donc ça complexifie les choses. Mais donc, oui, en effet, c'est une sorte de culture, une grande, on pourrait dire presque une civilisation, qui regroupe toutes sortes de gens, toutes sortes de peuples, toutes sortes de tribus qui vivaient un peu dispersées. Mais
il y a les Iroquois et d'autres là-dedans, là, c'est ça.
C'est ça. Et donc, la Ligue iroquoise du 17e siècle, ce sont des Iroquois qui vivent dans le nord de l'État de New York, la Confédération des Cinq Nations. Et eux, ils sont dans une guerre, dans une lutte à finir contre cette coalition laurentienne du Nord et contre les Hurons. Et cette Ligue iroquoise a le soutien des Hollandais au départ, qui vont leur fournir des armes, et des Anglais par la suite.
Alors, cette Ligue iroquoise, ça, ce sont les Mohawks, là. C'est ça? À ne pas confondre.
Oui. Exactement. Et là, graduellement...
Alors, ce sont les Iroquois contre les Iroquoiens, ça devient
ça devient compliqué. Oui. Alors, les Mohawks, ce sont les descendants de ceux qu'on appelle les Indiens domiciliés, c'est-à-dire, il va y avoir des missionnaires qui vont aller vivre dans la Ligue iroquoise, surtout après la Grande Paix de 1701, et il va y avoir des liens, et un certain nombre d'Iroquois du nord des États-Unis vont venir s'installer dans la région de Montréal, dans les villages qu'on connaît aujourd'hui. Ils vont s'implanter dans Oka et la rive sud de Montréal, et donc vont s'installer ça. Alors, les Mohawks d'aujourd'hui nous disent parfois, oui, mais nous, on est liés aux anciens Iroquois là, qui étaient là à l'époque de Cartier. Mais bonne chance, merci de le démontrer.
Ils ne parlent pas la même langue, hein, c'est ça?
C'est pas la même langue, c'est loin d'être démontré. Et
mais là, alors, pourquoi tiennent-ils, parce qu'il nous reste moins de 3 minutes, pourquoi tiennent-ils beaucoup à avoir le haut du pavé là-dessus et à faire en sorte que Montréal soit reconnu comme un territoire Mohawk non cédé?
Ben ça, honnêtement, il faudrait leur demander, je l'ignore, mais vous avez remarqué que la mairesse ne parle plus de territoire Mohawk, non cédé, mais simplement de territoire non cédé, parce que, en effet, c'est loin d'être démontré que ces Mohawks-là étaient là avant l'arrivée des premiers colons en 1642. Et de la même façon, je vous donnerai un autre exemple. Il y a eu des revendications territoriales des Hurons, des Wendat, donc des Hurons de la région de Québec, autour d'une seigneurie. Bon, je passe le détail, c'est complexe aussi. Mais là aussi, les Hurons, Québec, c'est tout sauf leur territoire historique. Les Hurons sont venus se réfugier à Québec après avoir été massacrés par les Iroquois à la fin des années 1640. Et les Wendat, les Hurons qui viennent, qui arrivent à Québec complètement en crève de faim, ils sont dans une misère noire, ils demandent la protection des Français. Ces Hurons-là sont ni plus ni moins que des réfugiés politiques, hein, que les Français vont accueillir. Ils vont d'ailleurs céder aux Jésuites une concession à Sillery. Ils vont s'installer là un bon bout de temps. Et bon, ils vont se déplacer par la suite. Mais, voyez, là encore, on a un problème historique. Avec qui on négocie? Et les Inuits, les Montagnais, interrogés par l'anthropologue Sylvie Vincent, considèrent que Québec, c'est leur territoire historique aussi. Alors, voyez...
Un autre territoire non cédé. Alors...
Ben voilà, alors là, si Québec, par exemple, devenait un territoire non cédé, avec qui on négocie? Avec les Inuits ou avec les Wendat? Si Montréal est un territoire non cédé, on négocie avec qui? Les Iroquois ou les Mohawks ou avec les Algonquins? Les Algonquins pourraient avoir autant de prétentions. Et si on creuse la preuve du côté autochtone, sur quels documents on s'appuie? Parce que en droit, on doit toujours avoir des preuves documentaires. Alors là, beaucoup d'Amérindiens vont nous dire, attention, c'est la tradition orale. Mais la tradition orale...
Mais c'est ce que disent les Mohawks, hein? Nous nous référons à notre tradition orale.
Non,
oui.
Non. La tradition orale, là, en tout respect, je comprends que ça peut avoir un certain intérêt quand on parle de 2 ou 3 générations avant nous. Si vous interrogez vos grands-parents sur comment ils ont vécu la crise, et vous avez des témoins en direct, mais si on remonte à 12 ou 15, 20 générations, je suis désolé, là, mais pour moi, c'est pas une base documentaire suffisamment solide.
Bientôt, Éric Bédard, nous serons en territoire radiophonique non cédé par la fin de l'émission.
Je m'arrête.
Oui, oui, mais il faudra qu'on continue cette discussion. Merci d'avoir quand même éclairé notre lanterne, là. Il y avait beaucoup de matière. On aurait pu faire 1 heure et plus là-dessus. Mais oui, on se reprend et on vous fréquente un peu partout sur les réseaux sociaux et dans les médias. Éric Bédard, historien, professeur à la TELUC, merci d'avoir été avec nous.
Merci, au plaisir.
Chers auditeurs, Nick Payne qui vous dit à la semaine prochaine.